Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage de l'Écriture, ou plusieurs passages de l'Écriture. J'ai été interpellé en préparant ce culte sur la notion d'ouvrir ou de fermer, ou de maintenir fermé. Vous connaissez tous ce verset de l'Apocalypse où il est dit « Je me tiens à la porte et je frappe, et celui qui ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. » Et ce verset de l'Apocalypse, ce passage de l'Apocalypse, nous parle de ce moment si particulier où nous acceptons d'ouvrir ou de maintenir fermé. Et en fait, une grande partie de notre vie avec Dieu repose sur le fait d'ouvrir ou de laisser fermer. Ou d'ouvrir sur autre chose que sur le royaume de Dieu et sur la présence de Christ dans nos vies. Nous pouvons nous ouvrir à plein de choses. Alors je ne sais pas si vous avez conscience des moments où vous avez pu dans votre vie accepter de vous ouvrir ou refuser de vous ouvrir, ou accepter de vous ouvrir à des choses qui ne sont pas de la pensée de Dieu. Quand j'étais enfant, ma mère était travaillait chez sa sœur. Elle travaillait chez sa sœur comme bonne à tout faire. Et puis elle est arrivée avec moi, mon petit frère est né là, et puis finalement on a fini par travailler aussi pour notre tante. C'était vraiment une vie très particulière. Elle faisait la location de ses chambres dans sa maison, qui était une maison mise à disposition de son mari par EDF, donc quasiment gratuitement, mais en plus elle louait les chambres à des personnes comme ça, et ma mère travaillait pour ça. Et moi, à partir de 5-6 ans, j'ai commencé à travailler dans la maison. J'ai récuré les parquets, je les ai frottés, je les ai cirés, j'ai nettoyé les vêtements des petits frères, des petites sœurs, etc. C'était une vie très particulière, mais comme c'était ma vie, je me disais que c'était normal. Et puis, quand il y avait un sentiment de déplaisir du côté de ma tante, on était vite punis, enfin surtout moi, et je me retrouvais puni sous l'escalier. Il y avait un réduit sous l'escalier avec un placard, un petit peu comme Harry Potter, vous voyez, sauf que j'avais pas de hibou qui m'apportait du courrier. Et je restais pendant des heures dans ce placard, par terre. Il y avait du matériel rangé. Je restais là pendant des heures et j'étais devant cette porte fermée à verrou. Et je ne sortais que selon le bon vouloir de ma tante. C'est fou ce que j'ai pu regarder cette porte, dans l'attente qu'elle s'ouvre et qu'elle s'ouvre sur autre chose. Est-ce qu'il y a dans la pensée de Dieu le désir de nous ouvrir une porte pour nous sortir de ce qui était, de ce qui est sombre, de ce qui est une position de défaite ou de crainte, de peur, pour nous faire rentrer dans un temps d'espérance. Parfois, nous maintenons les portes fermées. Ou je vais même aller plus loin, et c'est ce que la parole nous dit ce matin, parfois, nous refermons les portes de Dieu, volontairement. Nous les fermons en disant « Non, je ne veux pas. » Et nous nous privons de la gloire de Dieu. J'ai entendu Corinne prier en disant « Qu'est-ce que j'aime ta parole, Seigneur, depuis 30 ans. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ?» Oui ? Ouais ? Amen. Toute la parole de Dieu ? Ah ! J'aime bien parce qu'il y a un couple là à ma droite. Ils ont quelques décennies de... Il y a le mari qui a dit « Oh bah oui !» Et puis la femme qui a dit « Honnêtement, va falloir que vous en parliez ensemble. Il y a un décalage. » Moi, je vais être aussi honnête que notre sœur. Il y a un moment où je me suis rendu compte que je n'aimais pas forcément toute la parole de Dieu de la même manière. Dans ma Bible, qui est un petit peu en lambeaux, il y a les premières pages, et les premières pages sont, genre, je ne retrouve même pas la première page en question, il y a la liste des livres, et vous voyez, elle a pris l'humidité, ma Bible, ce qui fait que même ce que je veux vous montrer, quand j'avais 17 ans, je l'ai acheté, et vous avez la liste de tous les livres de la Bible, vous voyez. Et quand j'avais 17 ans, j'ai entendu mon pasteur me dire « c'est bien de lire toute la Bible en entier ». En me disant « si tu veux comprendre le plan de salut de Dieu, tu ne peux pas faire abstraction d'un passage de l'Écriture parce que chaque parole te révèle le plan de salut de Dieu ». Alors moi, j'avais 17 ans, j'étais motivé, j'ai commencé à lire la Bible et à lire chaque livre. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, à l'âge de 18 ans, 18 ans et demi, j'avais lu le livre des Proverbes une fois. J'avais lu Jérémie deux fois. J'avais lu les Actes des Apôtres cinq fois. J'avais lu l'Épître aux Éphésiens deux fois, ce qui pour un apostolique est totalement rédhibitoire. Normalement, ça devrait être le centre de la lecture. J'avais lu l'Épître aux Thessaloniciens trois fois. Et comme cela, Esdras, à l'époque, qui est devenu un de mes livres préférés, je ne l'avais lu qu'une fois. Et quand j'ai regardé, tout à coup, il y a un livre, je l'avais lu huit fois. C'est devenu aussi un de mes livres préférés, parce qu'il parle du plan de rédemption de Dieu, c'est le livre de Ruth. Et puis, il y a des livres que je n'avais pas lus véritablement très... Osée, Joël, Abdias, Jonas, deux fois quand même. Jonas, c'est rigolo avec le poisson, donc ça va comme petit prophète. Et finalement, je me suis dit, mais c'est pas juste. En fait, quand j'écoutais Corinne parler, il y a des livres de l'Écriture sur lesquels je ne m'attardais pas. Et il y a une douzaine d'années, j'ai dû reconnaître qu'il y a deux livres que je ne lisais qu'épisodiquement. Et ces deux livres, c'est le livre des Chroniques. Alors pourquoi ? Parce que le livre des Chroniques, c'est un petit peu comme le Deutéronome, c'est une répétition des livres des rois. Et moi, dans ma logique, je me disais, si j'ai lu une ou deux fois le livre des rois, 1 et 2, Chroniques, c'est une répétition, c'est pas obligé que je les relise en plus, hein. C'est jamais qu'une répétition. Et ça, c'était mauvaise pensée, parce que si Dieu a fait figurer ces livres-là dans l'Écriture, c'est qu'ils ont des différences, et même s'ils font le récit des mêmes choses, l'histoire des rois d'Israël et de Juda, eh bien, il y a des différences où il y a des pensées de Dieu pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez, ça ? Là, je vois il y a des personnes en face de moi qui disent... Je ne peux pas dire que je crois totalement ou que je le fais totalement, donc je ne veux pas mentir, donc je ne lève pas la main. Mais moi, j'étais comme ça. Et puis, il y a à peu près 15 ans, alors que j'allais partir en vacances, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit « Pendant tes vacances, attache-toi à l'Écriture et lis des livres en continu. » Alors j'ai dit « Bon, oui, Seigneur, ça, l'Évangile de Jean, ça, je peux faire. Les Actes des Apôtres, ça, je peux le refaire. » Et tout à coup, la pensée s'est imposée. Non, lis des passages de l'Écriture qui ne sont pas les plus faciles pour toi, les plus agréables. Et je dis, les Chroniques. Et là, il y a une petite voix en moi qui dit, ce serait bien. Ah bon ? T'es sûr ? Et je suis parti en vacances et j'ai lu le livre des 1 et 2 pendant toutes mes vacances, en continu, en m'arrêtant. Mais une lecture... poser, méditer, pas simplement lire, mais s'arrêter en se disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et ça a été vraiment une révélation de me rendre compte qu'en ayant cette disposition de cœur, d'ouverture, le Seigneur me parlait et me montrait des choses que je n'avais pas vues et que je n'avais pas comprises. Alors ce matin, j'ai envie de vous faire découvrir juste deux passages du livre des Chroniques, et peut-être de vous donner envie. On sera dans le livre des Chroniques, le deuxième livre, au chapitre 29. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de ces livres, sachez que vous retrouvez l'histoire des mêmes personnages dans le deuxième livre des rois au chapitre 18. Et c'est très intéressant de switcher entre les deux parce que vous vous rendez compte que le livre des rois et celui des chroniques rajoutent des éléments qui spirituellement ont du sens. Et en fait, c'est ça. Si je vous invitais, et j'ai mis une petite slide sur Ézéchias avec un titre sur la slide qui sera aussi celui de la prédication, Ézéchias, le choix de l'ouverture. Et je vous invite vraiment à... On va les laisser comme ça, tranquillement pendant toute la prédication, mais c'est bien d'avoir une image pour savoir où ça se situe et qu'est-ce qui se passe. Et en fait, dans ce récit d'Ézéchias et de son père Ahaz, ce que je vous invite, c'est toujours de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que ce livre d'histoire, puisque c'est l'histoire de la royauté, en Israël et en Juda, les deux parties bleues et orange, eh bien, qu'est-ce que ces récits d'histoire me disent de spirituel ? Parce que si je vous invite à faire une découverte historique, vous allez me dire, bon, un cours d'histoire le dimanche matin, peut-être pas besoin. Ou bien si, il y en a qui sont passionnés d'histoire. Mais en fait, quand... Ouais, Francine a dit, elle lève la main. Bon. Ben, je te ferai un cours spécial pour toi à la maison. Mais quand on est dans des livres historiques, la disposition que nous avons à voir, c'est qu'est-ce qui se passe spirituellement dans ce récit et qui me concerne. Parce que parler du roi Ahaz, père du roi Ézéchias, on va avoir une certaine distanciation qui va dire « Ouais, bon, c'est bien de le savoir, c'est bien de connaître ». Mais spirituellement, qu'est-ce qui se passe et qui me concerne ? Et c'est cela qui fait que quelqu'un comme Corinne peut prier ce matin en disant « Ta parole est magnifique » parce que spirituellement, tout ce qui est écrit doit m'apprendre quelque chose de moi et de Dieu. Sinon, mettez, moi j'ai rangé mon bureau, je crois que je dois avoir 40 ou 50 Bibles différentes, versions différentes, en papier. Donc, c'est bien. Puis, je suis sûr que si je vais chez des gens qui ont reçu une Bible de mariage au moment de la célébration, elle est bien dans un coin de la bibliothèque, posée et jamais ouverte. Ça arrive. Est-ce que spirituellement, la parole de Dieu peut me dire quelque chose ? Alors, on va juste piocher au chapitre 28 l'histoire d'un roi qui s'appelait Ahaz. Il régnait dans le royaume de Juda. C'est la partie orange que vous avez là. Et vous avez au-dessus en bleu le royaume d'Israël. Alors pour certains, peut-être dans leur lecture de la Bible, n'ont pas vu cette différence. Mais souvent, on parle des rois d'Israël, des rois de Juda, etc. Tout simplement en 900, un peu plus de 900 avant Jésus-Christ, après la mort du roi Salomon, les successeurs se sont divisés et le territoire d'Israël, globalement, a été divisé en deux royaumes. Le royaume d'Israël en bleu et le royaume de Juda en orange. En fait, le royaume de Juda s'étend à la fois de Beersheba jusqu'à Jérusalem au nord. Si je vais vous montrer, là, vous avez Jérusalem. Et puis, vous avez ici Jéricho dans le bleu, c'est-à-dire au sud du royaume d'Israël, et vous avez Samarie ici. Non ? Ça vous donne un petit peu des repères pour savoir que après Salomon, le royaume a été divisé en deux. C'est déjà bien parce que ça vous permet de comprendre pourquoi il y a des disputes et entre qui il y a des disputes. Et puis en fait, le royaume d'Israël a disparu en termes d'entité à partir de la fin du royaume, de la royauté de Salomon. Et ici, ce matin, on va parler à la fois du royaume de Juda en orange, qui a été un royaume plutôt avec des rois qui étaient obéissants à la pensée de Dieu. tel Ézéchias. Mais il y en avait quand même quelques-uns qui étaient des rois qui s'éloignaient totalement de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, comme Ahaz, le père d'Ézéchias. Et par contre, le royaume d'Israël a été majoritairement un royaume dirigé par des rois qui avaient délaissé l'Éternel et qui se livraient à des actes et à un culte totalement étranger aux choses de Dieu. Donc vous voyez, un pays que nous souvent on imagine entier, puis qui en fait, pendant près de 1000 ans avant Jésus-Christ, 900 ans en tout cas, a été divisé avec de l'opposition, de l'adversité, etc. Le père d'Ézéchias s'appelait Ahaz. Il est dit dans le chapitre 28 des Chroniques, « Ahaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. » Donc on est bien dans le royaume de Juda, avec la capitale Jérusalem. Dans le royaume d'Israël, la capitale était Samarie. Donc Ahaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, donc ceux du nord. Il a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné de Dieu. Et même il fit des statues de métal fondu pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et fit passer ses fils par le feu. C'est-à-dire qu'il les a sacrifiés. C'était des rituels où on sacrifiait des enfants pour avoir la bénédiction de faux dieux suivant les horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Il est dit un peu plus loin, il y a un épisode où à un moment donné, il y a guerre entre le royaume d'Israël en bleu et le royaume de Juda. Et à un moment donné, ceux qui sont dans le royaume d'Israël ont fait la guerre à des villes et des habitants du royaume de Juda. Et ils en ont capturé 200 000 qu'ils ont décidé de soumettre à l'esclavage. C'est-à-dire des Israélites qui soumettent d'autres Israélites à l'esclavage. 200 à 230 000. Il y a une trace archéologique qui est au British Museum qui parle de cet épisode-là. On l'appelle la pierre de Taylor. Et on a ce récit-là de l'esclavage. Des Juifs qui... ce qui est totalement interdit. Eh bien, juste le récit après parle d'un prophète qui est envoyé par Dieu qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Comment pouvez-vous envisager de mettre en esclavage vos propres frères ?» Mais c'était le royaume d'Israël qui était totalement en dehors de la pensée de Dieu. Et la prophétie de ce prophète, qui s'appelait Obed, a fait que des justes qui étaient dans le royaume d'Israël ont dit « mais on ne peut pas faire ça ». Ils sont opposés à cette volonté, y compris du roi, de mettre 200 000 juifs en esclavage sur leur territoire. Et finalement, ils les ont raccompagnés de Samarie jusqu'à Jéricho en leur donnant des vêtements, des sandales, de la nourriture pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Vous voyez où on en était ? C'était la situation au temps d'Ézéchias, enfin de son père en tout cas. Et puis en ce temps-là, le roi Ahaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. C'est-à-dire qu'il commence aussi à solliciter les rois d'Assyrie pour soutenir son positionnement royal, etc. Et il est dit qu'en fait, le roi d'Assyrie, Tilgath-Pileser, vint contre lui, le traita en adversaire et ne le soutint pas. Ça veut dire que quelque part, Ahaz avait choisi de s'opposer à Dieu. Mais il n'a pas pu trouver le soutien de roi extérieur. C'est aussi une démarche spirituelle. Quand on abandonne Dieu, on est obligé de s'appuyer sur des puissances qui ne sont plus celles de Dieu. Et c'est ce qu'a fait Ahaz. Et il a fait ça de manière, je dirais, volontaire, puisqu'il est dit après, Ahaz avait dépouillé la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des dons au roi d'Assyrie. C'est-à-dire qu'il a payé l'adversaire. Et vous savez quoi ? Spirituellement, quand on fait le choix de ne plus marcher avec le Seigneur, on est obligé de payer l'adversaire. Il y a une rançon à donner. Une collègue avait constaté que je suis arrivé un matin, il y a une trentaine d'années, au travail avec deux béquilles. Je m'étais fait un claquage à la jambe en jouant au tennis à Quimperlé. Quimperlé est une terre très dangereuse. Je faisais un tournoi, je me suis fait un claquage. J'arrive avec deux béquilles et cette collègue me dit « Mais Jean-Marc, mon fils devait faire un essai au club de foot de la montagne. » Pour ceux qui connaissent un peu le coin, c'est un des grands clubs de foot amateurs de la région. Et puis, il s'est fait une entorse sévère du genou, etc. C'était annulé. On est allé voir un guérisseur. Et puis, quand on est allé au guérisseur, il a fait quelque chose, des passes avec de la salive et tout. Écoute, il avait pour pratiquement un mois à deux mois d'indisponibilité selon le médecin. Deux jours après, il faisait son essai à la montagne et il était pris dans le club de foot. « Vas-y !» Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas ?» Parce que la puissance, je crois, parce qu'elle m'a dit « Mais ça marche ! Vas-y, ça marche !» Mais je ne mets pas en cause le fait que ça marche ou pas. Mais quel est le prix à payer au roi d'Assyrie ? Quel est le prix à payer à l'adversaire qui est derrière ces pratiques ? Et quand on fait le choix d'abandonner Dieu ou de ne pas rentrer dans les pensées de Dieu, quand on fait le choix d'aller ou de conduire sa vie dans les chemins de l'adversaire, il y a un prix à payer. Il est dit ici, Ahaz avait tout dépouillé dans le temple, dans le palais, etc., pour payer le roi d'Assyrie. Et il y a toujours un prix à payer à l'adversaire s'il nous fait des cadeaux. Ce ne sont jamais des cadeaux gratuits. Vous voyez, c'est un exemple de comment lire spirituellement un passage où on ne voit qu'une histoire de roi qui s'appuie. Oui, mais c'est spirituel. Il s'était écarté. Il est dit qu'il avait vidé, il rassembla les objets de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit des autels dans tous les coins de Jérusalem. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour faire brûler des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Ça signifie que cet homme, il a commencé à adorer et à faire monter des prières, de l'adoration à des faux dieux. On peut se dire, mais refuser de croire en Dieu, le Dieu vivant, le Dieu éternel, c'est un choix. Oui, mais ce choix-là, qu'on le veuille ou non, c'est ouvrir la porte, fermer la porte à Dieu et ouvrir la porte à d'autres dieux. Même si on ne met pas ce nom-là là-dessus. Moi, j'entends parler de ceux qui disent « Mais je ne suis pas croyant. » Donc, mais si tu fermes la porte à Dieu, tu acceptes de vivre selon les codes, la volonté et les pensées de l'adversaire. Qu'est-ce que cela aura comme conséquence dans ton existence et dans celle de ta famille et de tes enfants ? Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des générations qui font le choix de fermer la porte à Dieu. Ma mère m'a toujours dit, moi je suis catholique non pratiquante. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire, j'ai une étiquette, c'est marqué catholique non pratiquante. Mais en fait, dans notre vie quotidienne, Dieu était totalement absent et le catholicisme aussi. Par contre, j'avais une petite boîte dans un tiroir et dedans, il y avait un coquetier en argent avec une petite cuillère. C'était le cadeau qui m'avait été offert dans la famille pour mon baptême dans l'Église catholique. Mon catholicisme se réduisait à un coquetier avec une petite cuillère. Je ne sais même pas où il est passé, ce coquetier. Je crois qu'on l'a offert à quelqu'un, à des enfants. Non, il est toujours là. Ah oui, il est toujours là. Bon, d'accord, il est toujours là. Je vous le montrerai un jour. La porte était fermée. Toute ma vie, j'ai vécu loin de Dieu. Il ferma la porte. Il y a dans des générations qui sciemment, volontairement, ferment à double tour la porte vers Dieu. Le chapitre suivant dit « Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans », c'est-à-dire 5 ans après, après son père qui était roi à 20 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Donc vous voyez, dans le royaume de Judée, de Juda. Le nom de sa mère était Abia, fils de Zacharie, le fils qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme avait fait David son père. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Vous voyez le lien entre le père et le fils ? D'un côté, vous avez un père qui ferme les portes, qui dit « Moi, ce Dieu-là, j'en veux plus, je fais d'autres choix. » Et vous avez le fils Ézéchias, au chapitre 29, qui le... Alors moi, j'aime bien cette précision-là. La première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de l'Éternel. Ça dit déjà quelque chose de l'homme. Il n'a pas attendu en disant, bon, ça serait bien qu'on fasse... En France, ça aurait été ça. Bon, je suis roi, il y a des choses à changer, à transformer. On va faire une commission. Non, j'ai entendu ça par rapport à un homme politique récent qui vient d'accéder au pouvoir et qui a dit « On va faire une commission rapide, je ne sais plus comment quel était le terme. Un conclave !» C'est un terme encore qui a du sens, ça. Un conclave. Et puis dès que la fumée blanche sort, on saura à quel âge on part à la retraite. Ça, c'est français. Le nombre de commissions que j'ai pu créer dans ma vie professionnelle ou auxquelles j'ai participé pour la démarche qualité dans un hôpital, je vous assure, j'ai dû créer une cinquantaine de commissions tout au long de ma vie professionnelle. Et je vous dis pas les centaines, les milliers d'heures de travail en commission pour répondre aux exigences de la qualité. Mais qu'est-ce qu'on était bon après, hein ? Là, Ézéchias, la première année, le premier mois, il ouvre les portes de la maison de l'Éternel. C'était pour lui une priorité. Alors, frères et sœurs, j'ai envie de dire, quelle est votre priorité dans votre vie aujourd'hui ? Quelle est ma priorité ? Faire une commission ou ouvrir les portes qui donnent accès à Dieu ? Je vous assure, c'est une vraie question à se poser. Quelles sont les portes à ouvrir ? Je peux attendre un an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, plus ? Oui ! Je connais personnellement des personnes qui attendent. Je ne sais pas pourquoi ils attendent, mais ils attendent. Alors parfois on attend des signes de Dieu, on attend que les planètes s'alignent, que les circonstances, etc. Qu'est-ce qui fait que j'attends dans ma vie pour ouvrir la porte qui donne accès à Christ dans mon existence ? Qu'est-ce que tu attends ? Véritablement, premier jour, première année de son règne, cet homme-là dit à 25 ans, à 25 ans, il dit c'est la priorité. C'est Benjamin Selvaratnam, le pasteur qui a fait 2 baptêmes dans notre église, alors qu'on était une église de maison, qui au collège biblique enseignait quand on y était, et qui disait aux élèves, il dit, à partir de quand pensez-vous que une bougie peut donner de la lumière ? À partir de combien de temps, à votre avis ? Dès qu'on l'allume. Il ne faut pas attendre un peu avant que ça donne de la lumière. Dès qu'on l'allume. Quand est-ce que le Saint-Esprit est entré dans notre vie et a apporté la lumière de Dieu dans notre existence ? À partir de quand cette lumière doit-elle briller ? À partir de quand allons-nous ouvrir la porte à Dieu ? Vous savez, ce sont des questions simples, mais ce sont des questions auxquelles nous aurons à répondre devant Dieu. Quand tu as reçu l'Esprit Saint dans ta vie, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, mais quand l'Esprit Saint t'a révélé Jésus-Christ, le salut qu'il t'a accordé, la vie nouvelle qu'il t'a donnée, à partir de quand tu ouvres la porte dans tous les domaines qui sont concernés par Christ ? Son père à fermer les portes du temple. Moi, je peux mettre sur le dos de mon père plein de choses. Alors, j'ai un père, j'ai deux pères. Moi, j'en ai même trois avec celui qui est au ciel. J'ai un père biologique que j'ai connu dans ma vie consciente, en tout cas. Il m'a élevé jusqu'à un an et demi. Et puis après, il s'est séparé de ma mère. Donc, j'ai pas de mémoire, de souvenirs. Je l'ai connu une journée quand j'avais 13-14 ans. Il est venu me rendre visite à l'école où j'étais, je ne savais pas qui c'était. Et puis, je l'ai invité quand Christophe, notre fils, est né à peu près en 1985. Et là, on a passé une semaine ensemble, puis après, je ne l'ai plus revu. Ça, c'est mon père biologique. Est-ce qu'il est comme Ahaz, quelqu'un qui m'a transmis des choses? Certainement. Des choses... Quand j'étais sous l'escalier, dans le réduit enfermé à clé, sur la patère de la porte, il y avait un kimono qui m'avait été offert par lui quand j'étais enfant. Et j'avais le droit de le porter une fois par an. Au moment de Noël, j'avais le droit. Il m'a transmis ça. Et puis, il m'a transmis quelque chose que j'ai découvert pratiquement 40 ans après, 45 ans. J'ai jamais compris pourquoi, je le dis souvent, pourquoi je ne pouvais pas boire beaucoup d'alcool. J'avais au service militaire des gens qui descendaient 10, 12, 13 bouteilles de bière. Puis moi, donc, j'en avais bu une maximum, j'étais pas bien. Et j'ai découvert dans un congrès médical que, étant à moitié vietnamien, j'avais moins d'enzymes pour dégrader l'alcool au niveau du foie que les Français. Donc, je suis pas à égalité avec vous, hein. Mais c'est une bonne chose. Tout à coup, quand j'étais à ce congrès, vous savez ce qui m'est venu à l'idée? J'ai dit merci papa. On s'est vu qu'une semaine en tout dans ma vie, mais merci parce que ça m'a évité de basculer comme d'autres dans la consommation d'alcool. Et puis mon père, qui m'a adopté, et que j'ai adopté, quand j'avais 5 ans, était malade alcoolique. Est-ce qu'il m'a transmis quelque chose? Oui. Il m'a transmis l'amour. Il m'a aimé comme jamais j'ai imaginé qu'un homme puisse m'aimer comme son enfant. Il était malade alcoolique, parfois un peu violent, jamais vis-à-vis de moi ou de ses enfants, mais il m'a aimé. Qu'est-ce que nos pères nous ont transmis de bon et de mauvais? Pendant 40 ans, j'ai pensé que mon père biologique, il ne m'avait rien transmis. Puis d'un coup, je dis, ah mais oui, il m'a donné quelque chose. Et après, comment est-ce que je prends position par rapport à ce qui m'a été transmis? Ahaz a fermé les portes à Dieu. Alors Ézéchias aurait pu choisir le même chemin et dire, eh bien, je fais comme ce qui m'a été transmis. Mais il a fait ses propres choix d'ouverture et de fermeture. À quoi est-ce que tu es fermé parce que ça t'a été transmis? En termes de comportement? En termes de choix de vie? Au niveau spirituel? Et en quoi il t'a été transmis des choses qui sont des bonnes choses qui t'ont conduit aussi parfois sur le chemin de Dieu? Qu'est-ce qui est de la transmission entre ce qui était avant et qui t'a été transmis? Et quels sont tes choix à toi? À un moment donné, je ne peux pas dire « c'est à cause de mon père toute ma vie ». À 66 ans, ce serait ridicule. Mais qu'est-ce que j'ai accepté que Dieu guérisse pour que je puisse faire mes choix et que j'ouvre des portes qui me sont nécessaires et indispensables? Et s'il y en a un qui n'a pas besoin de vivre cette expérience-là avec Dieu, eh bien, c'est qu'il est arrivé au plus haut degré de la perfection et de la sainteté. Serons-nous des hommes et des femmes qui, pour les générations futures, auront fermé les portes de l'espérance de l'éternité? Est-ce que nous serons semblables à Ahaz ou comme Ézéchias? Est-ce que nous ouvrirons les portes du temple qui donne accès à Dieu? C'est cela qu'il a fait. Première année, premier mois, j'ouvre les portes pour que nous puissions aller à la rencontre, moi et le peuple qui est avec moi. Mais est-ce qu'il est possible d'ouvrir toutes les portes? Est-ce que finalement, il n'y a pas des portes qui sont tellement bien fermées, tellement bien scellées, que finalement, il est impossible de les ouvrir? Le psaume 107, verset 9, dit « Car Dieu a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. » Et Ésaïe, au chapitre 45, verset 2, reprend le même texte. « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, et je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. » Est-ce que ce n'est pas une parole de Dieu qui nous donne la possibilité de nous appuyer sur ce qu'il est? Il y a quelque chose que nous avons à saisir par la foi, frères et sœurs. Souvent, nous donnons plus d'importance à la solidité des verrous et des portes qui sont fermées que dans la puissance de Dieu. Nous n'avons pas cette confiance et cette foi qui dit « Je crois que tu peux rompre ces verrous, que tu peux ouvrir ces portes-là. » Parce que nous avons emmagasiné en nous une telle peur, une telle certitude que c'est impossible que Dieu me change, que c'est impossible que Dieu me donne accès à quelque chose de différent. Alors que c'est sa volonté. J'écoute les prières qui sont dites par les uns et par les autres, et souvent, j'aime beaucoup les prières de Christine qui ose dire que le salut ne s'arrête pas au pardon des péchés, mais à la volonté que Dieu veut accomplir dans ma vie, ce qu'il veut transformer, ce qu'il veut changer. Mais est-ce que nous le prions et est-ce que nous le vivons? Est-ce que je crois, comme Ésaïe et comme le psalmiste, qu'il a brisé? C'est même pas... Il va briser, il a brisé déjà. C'est-à-dire que les verrous que nous maintenons, en fait, ils sont déjà brisés. Et Dieu veut nous mettre en liberté et nous faire entrer dans des pensées nouvelles. Il y a 3-4 ans, j'ai fait une... Je raconte souvent ça, mais c'est une expérience qui m'avait marqué. J'ai fait une préparation aux obsèques pour une famille, ça fait peut-être 5 ans, dans la pièce de devant. Et puis, on est resté là une heure et quart pour la préparation des obsèques. Et puis, à la fin, je les ai raccompagnés, ils sont sortis. J'étais tout seul, c'était un soir de semaine, tout. Et puis, j'avais laissé mes affaires sur la table, mon téléphone, etc. Puis, je suis allé aux toilettes pour une petite pause. Dans les toilettes, une fois que tout, je m'étais bien nettoyé les mains et tout, j'ai voulu ressortir. J'ai pris la clenche et à ce moment, j'ai entendu « cling » et de l'autre côté, la clenche qui est tombée. Je dis « mais c'est quoi cette histoire ?» Je me suis retrouvé avec une clenche, puis pas avec le bout carré à l'intérieur, hein, la clenche sans le bout carré. Et là, je dis « mais je fais comment là maintenant ?» Et je suis resté environ une heure et quart, dans les toilettes enfermées. Et vous savez, on s'ennuie vite dans des toilettes, quand on n'a pas de raison d'y rester. Et j'étais là, et je dis, mais alors j'ai tout essayé. J'avais rien, même pas le téléphone pour appeler ma femme, viens me délivrer. Et pendant une heure, j'ai tout essayé. Comme je dis, avant, il y avait des journaux dans les sanitaires, là, il n'y en avait pas, donc je m'ennuyais un peu quand même au bout d'une heure. Et j'ai cherché, et Catherine avait fait un nettoyage top dans les toilettes, il n'y avait rien. À part le papier toilette, mais il n'y avait rien. Donc j'étais là, et puis j'ai cherché partout, et j'ai trouvé dans un petit coin une barrette, pas une barrette, vous savez, mais c'est ces petites épingles noires que les dames mettent dans leurs cheveux pour retenir une mèche, vous savez. Ma mère en avait toujours plein. Et j'en ai trouvé une. Et avec cette petite barrette, cette petite tige, j'ai gratté le pin de la porte pendant 10 minutes, et au bout de 12 minutes, ch'ting, ça s'est ouvert. Et je suis ressorti, j'étais heureux. Vous savez quoi? Les verrous des reins sont déjà brisés. Et la foi peut nous sembler ressembler à une épingle, à quelque chose de tellement faible, tellement petit. Mais c'est cette foi-là qui ouvre les portes. et qui nous donne accès à Dieu. Lorsqu'il a été dit par rapport d'Ézéchias ce qu'il a fait, il est dit qu'il a commencé ensuite à reconstruire les murailles. Alors d'abord, il dit c'est lui qui la première année a ouvert les portes, et après il a fait venir les sacrificateurs, les lévites, et il l'assembla sur la place orientale, il leur dit « Écoutez-moi lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. » Vous savez quoi ? Qui est lévite ? Qui est sacrificateur aujourd'hui ? Où sont-ils ? Ben j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a Françoise, elle n'est pas sûre, mais elle lève la main. Si, c'est vrai, c'est bon ? Tu es ? Très bien. Alors c'est par timidité. Ou par humilité. C'est bien. Nous sommes tous sacrificateurs du Dieu vivant par Jésus-Christ. Alors il nous est dit, maintenant, lévite. Donc vous, moi, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'une fois que nous sommes installés, que les portes sont ouvertes, maintenant allez-y, sanctifiez-vous, c'est-à-dire acceptez l'œuvre de transformation que Dieu veut accomplir dans vos vies. Que ce qui est impur soit écarté, rejeté, mis dehors. Je me rappelle d'une sœur, enfin d'une femme, oui, une sœur, parce que je crois qu'elle est au Seigneur, mais qui s'était convertie à Gestel et qui a dit, à un moment donné, oui, il faut que je me sanctifie, que je sanctifie ma maison. Et puis elle a dit, est-ce que vous pourriez, tu pourrais venir récupérer ce que je mets dehors? Et puis elle m'avait sorti des trucs, mais alors de son ancienne vie, et elle avait fait des choses, et j'étais reparti avec des cartons à mettre dans la déchetterie. Et puis une fois que j'avais pris tous les cartons, elle me dit alors je dis bon, c'est bon, on peut y aller. Elle était à Gestel, là, et puis elle m'a regardé, elle me dit ouais, je crois que j'ai fait l'essentiel. Elle dit attends, c'est l'essentiel ou tu as fait ce que tu devais faire? Ah, j'ai fait l'essentiel. Alors j'allais m'en aller, puis elle me dit attends, ça m'embête, mais il y a encore quelque chose. Je dis ah bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le jeter là? Est-ce que tu veux sanctifier ta vie? Elle me dit oui. Puis là, elle me sort une statue de Bouddha grande comme ça. Je dis mais mais tu veux la jeter ou bien? Ouais, mais enfin, c'est de l'ivoire quand même. Ça coûte cher. Ça a de la valeur. Et moi, j'étais là. Je pouvais pas lui dire mais la valeur, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie en termes de sanctification? Et là, on s'aperçoit qu'il y a en nous des combats, de choses que nous ne voulons pas abandonner parce que nous lui accordons, nous leur accordons encore de la valeur. Sanctifiez-vous! Je suis reparti avec le Bouddha. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je garde dans un coin? Et par rapport auquel je dis, oui, mais ça a encore trop de valeur. Cette activité-là, ce comportement-là, ce n'est pas simplement des choses, c'est aussi sanctifier ce qu'il y a en vous. Ce comportement que tu as et dont tu sais, et où le Saint-Esprit met le doigt et te dit, ça, ce n'est pas juste. Oui, mais j'avais beaucoup de patientes qui, quand elles étaient envoyées dans le bureau du directeur parce qu'elles avaient eu des comportements violents, des paroles agressives, etc., qui avaient ce grand argument dans mon bureau. Je l'ai entendu des centaines de fois. Oui, monsieur le directeur, j'entends bien, mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Sous-entendu, je ne peux pas changer. Vous n'avez quand même pas me demander de changer. Et vous savez quoi? Nous sommes comme cela devant Dieu. Et nous lui disons, oui, je sais bien qu'il faudrait que je change. Que dans mon comportement, il y ait cela qui soit transformé. Tu mets le doigt dessus, tu m'en as parlé. Mais je suis comme ça. Et c'est plus facile de rester comme ça. Mais est-ce que tu veux que l'œuvre de Dieu apporte sa vie? Tu ne grandiras pas, tu ne te développeras pas spirituellement si tu ne fais pas le ménage dans ta maison. Ézéchias est-il dit dans le deuxième livre des Rois, chapitre 18, vous voyez, c'est le texte miroir du livre des Rois par rapport à Chronique. Il est dit au chapitre 18, verset 5, « Affermit son pouvoir, il reconstruisit la muraille qui avait des brèches et l'éleva jusqu'au tour, bâtit une autre muraille, il se procura une quantité d'armes et de boucliers et il établit des chefs militaires sur le peuple, etc. » Là, comment affermir son pouvoir et rentrer une fois que les portes sont ouvertes ? Ben, il faut s'attaquer aux murailles qui ont des brèches. Et vous savez quoi ? C'est ce travail-là qui a permis à Ézéchias d'installer la présence de Dieu et la sécurité pour le peuple de Dieu. Et dans ma vie, ma sécurité aussi dépend de ma capacité à travailler sur mes brèches. Le prophète Agée, au chapitre 1, verset 8, dit « Montez sur la montagne !» Et là, c'est aussi un ordre spirituel. « Reste pas en bas, monte sur la montagne !» Un peu Élie qui monte aussi sur la montagne. Et Agée dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. » Et moi, je crois que cette parole d'Agée concerne non seulement Jérusalem et le Temple, mais qu'il concerne aussi la vie des croyants. Monte sur la montagne. Reste pas en bas dans ta vie quotidienne, dans tes activités, en train de te dire, oui, mais bon, hey, je bosse, hein, moi, j'ai pas que ça à faire, hein, monter sur la montagne. J'ai pas que ça à faire que de prendre du temps pour prier. J'ai pas que ça à faire que de consacrer du temps à lire ta parole. Je bosse, moi. Bon, c'est pas vrai, moi, je suis à la retraite. Mais bon, quand même. Montez sur la montagne. Venez à ma rencontre. Élevez-vous. Apportez-vous. Et bâtissez. Réparez les brèches. Le Thessalonicien, Paul, dit la même chose. Exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un et l'autre comme vous le faites déjà. C'est-à-dire, parlez-vous. Dialoguez. Afin que ce que vous avez à vous dire les uns aux autres vous permette de vous édifier. Le silence n'a jamais rien édifié, vous savez. J'aime bien les communautés quand je suis à Team Haddock. J'aime bien les temps de prière 5-6 fois par jour. Alors nous, on y va juste à celle de 13 heures, il ne faut quand même pas exagérer. Et puis là, il y a du calme, il y a du silence, il y a du recueillement, c'est génial. Mais il y a du moment où nous devons nous élever et être confrontés à la parole que Dieu nous adresse, mais aussi que nous nous adressons les uns et les aux autres pour nous édifier. Sinon, nous restons avec les mêmes brèches, avec les mêmes fragilités. Est-ce que c'est cela que nous choisissons ? Oui ! Bien souvent ! Jusqu'à ce que nous acceptions d'ouvrir la porte, de laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir. Moi, j'aime ce texte de l'apôtre Pierre qui dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Édifiez-vous. Est-ce que tu acceptes d'ouvrir les portes et de laisser Christ et son esprit accomplir cette œuvre en toi ? Je terminerai avec ça. Il est dit dans 2 Rois 18 que Ézéchias affermit son pouvoir. Il affermit son pouvoir. Et je vous assure que Dieu veut véritablement faire ça dans nos vies. Il veut affermir notre pouvoir. Non pas un pouvoir pour diriger, conduire, etc. C'est quand même moi le pasteur, hein, il ne faudrait pas le partager ce pouvoir. Si, il veut affermir notre pouvoir spirituel, notre position spirituelle aux uns et aux autres. Et nous faisons parfois preuve de tellement d'absence par rapport à cette volonté de Christ. Il veut affermir ton pouvoir. Il veut te rendre fort, solide. Oui ? Amen ? Ah d'accord, j'en attendais un, il est venu. Il veut affermir notre pouvoir. Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut ? C'est-à-dire à reconstruire tes murailles, à travailler sur ces brèches. Et il est dit qu'il affermit son pouvoir ensuite en se procurant une quantité d'armes et de boucliers. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté comme cela en se disant « Bon, ça y est, on a reconstruit les murailles, les brèches sont faites, hein, il n'y a plus qu'à attendre, restons tranquilles derrière les murs. » Non, il s'est procuré des armes afin de pouvoir combattre l'adversaire. Quelles sont les armes spirituelles qui sont dans ta vie, mises à disposition par l'Esprit-Saint, afin que tu puisses combattre l'adversaire qui va venir à ta rencontre? Parce que je vous assure, une ville qui est avec des brèches, des portes ouvertes, etc., les gens qui sont autour et qui sont à des adversaires, oh, on n'a rien à craindre. Mais dès lors que cette ville se fortifie, ferme ses portes aux adversaires, reconstruit ses murailles, alors là, les adversaires, dans toute l'Écriture et l'Ancien Testament, c'est un positionnement, une réactivité récurrente. Les adversaires se réveillent pour se dire, oh là, on ne peut pas laisser ça comme ça. Esdras, Néhémie, Livre des Rois, relisez ces textes-là, l'adversaire dit, ça me dérange. Parce que spirituellement, vous ne dérangez pas l'adversaire de nos âmes tant que vous ne prenez pas position, que vous n'ouvrez pas les portes à sa présence, à cette relation, que vous ne reconstruisez pas vos murailles et réparez les brèches, l'ennemi se dit, oh, rien à craindre de lui, rien à craindre d'elle. Alors, mettez-vous en route. Je voudrais juste dire, il y a aussi ce verset de 2 Chroniques 29, 11 qui dit « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. » Ah ! Jérémie dira d'une autre manière, 48, 10 « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mais maintenant, mes fils, là dans le livre des Chroniques, cessez d'être négligents. Après s'être sanctifiés, ils vinrent purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi. Et d'après la parole de l'Éternel, ils sortirent toutes les impuretés. Et du temple, les Lévites les reçurent pour les emporter dehors dans le ravin du Cédron. Est-ce que tu veux faire cette œuvre-là dans ta vie? Il y a un enjeu important pour toi. Le chapitre 29 se termine par ce verset. Et je terminerai avec ce verset volontairement. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait tout préparé pour le peuple, car l'événement eut lieu subitement par rapport à tout ce que Dieu avait prévu. Il y a cessez d'être négligent, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui, à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir du parfum. Voilà ce à quoi tu es appelé. Je suis appelé. Cessez d'être négligent, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui, à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Seigneur, par ton Esprit Saint, tu nous parles au travers de ta parole. Tu ne nous racontes pas simplement des histoires et des récits du passé. Tu nous dis ce que ton Esprit veut nous apprendre et qui sont des leçons éternelles de stratégie spirituelle. Comment vivre avec toi. Comment prendre position en nous-mêmes. Comment ouvrir les portes dans cette relation avec toi et vivre des choses nouvelles. Seigneur, nous aurons à répondre de nos temps de négligence. Mais nous aurons aussi à nous réjouir quand nous ouvrirons la porte pour te rencontrer, quand nous rentrerons dans ta pensée, dans tes plans, de la joie qu'il y a à être restauré, à grandir et à vivre pleinement cette relation avec toi. Seigneur, je t'en prie, ne me laisse pas de cesse que je ne sois rentré dans tes pensées. Amen.